Jean le Rhin, la Marjolaine. Ce conte-là, c'est une vieille chanson de mon enfance, dont j'ai tant bien que mal essayé de rétablir le rythme et les rimes. Je crois entendre encore les voix traînardes des servantes qui le chantaient, non plus chez ma grand-mère, mais chez mes parents. Oh, il y a longtemps de cela, dans la petite ville de la côte, où j'ai passé mes toutes premières années. On la chantait à la veille de Noël, en attendant la messe de minuit. Et c'est dans la cuisine de la maison paternelle qu'elle émerveilla pour la première fois mon imagination de gosse amoureux de légendes, toujours échappé du salon pour venir me blottir entre les jupes de filles de service et les entendre poétiser dans de vagues refrains populaires leurs espérances et leurs terreurs. Or, entre tant de chimériques sordettes, je l'aimais d'une affection toute particulière, l'histoire de cette belle fille emportée, les jupes sans dessus-dessous, sous la nuque glacée par ce terrible vent du nord, ce vent de Norway que, pendant le récit même, nous entendions gémir là-bas, sous les falaises. On dansait sur le pont du nord, et la bise y soufflait si fort, qu'elle enleva la marjolaine. La marjolaine et la futaine de sa jupe et ses bras de laine, et le nuage en son essor la frôlait, et loin de la ville, la pauvre fille vole et file, toujours plus dru, toujours plus fort. Elle tourbillonne et s'écrie, « Jésus et Madame Marie, puisque je vogue vers la mort, faites qu'aussitôt étourdi de ma chute, j'entrebrandis dans votre ciel étoilé d'or. » Et sous la nue âpre et glacée, voilà la prière exaucée. Au clocher de Saint-Évremond, la marjolaine, âme éperdue, reste tout à coup suspendue par un accroc de son jupon. Par la nuit froide et pluvieuse, la gargouille silencieuse prend soudain parole et lui dit « Peu résistante est la futaine, songe à ton heure, hélas prochaine !» Entends-tu rire le maudit ? Et sous le vent rageur d'automne, la belle s'épeure et frissonne au-dessus du vide entrouvert. Elle compte dans la nuit brune les toits bluissants sous la lune et les seins du parvis désert. Et le maudit déjà ricane quand un parfum monte et s'émane du bain-joint d'encens et de nard, et portant la main des palmes dans l'espace et sous le ciel calme, ascensionnent les grands vieillards. De grands vieillards en robe blanche, dont le front chauve oscille et penche sur des chapes de lourds brocarts. Et puis ce sont, par théorie, des vierges en robe fleurie, d'étoiles et de lys épars. Les fronts sont nimbés d'auréoles, de longs archanges en étoles, font cortège et, de purs regards d'azur sombre où l'on sent des âmes, sillonnent de grands traits de flamme la nuit, la lune et ses brouillards. Et cela monte avec des psaumes et des Noëls, anges fantômes de vierges saintes et d'élus, et conduit en cérémonie la marjolaine à l'agonie dans le paradis de Jésus. Cette marjolaine, je me la figurais en tout point, semblable aux robustes et belles normandes qui servaient chez ma mère. C'était le même costume, bas de laine et jupe de futaine, comme dans la chanson. Et dans mon imagination précoce, c'était ma bonne Héloïse, celle qui s'occupait de moi, qui me semblait voir tourbillonner comme une toupie au-dessus des jetées toutes ruisselantes d'écume, déjà loin, bien loin de ce fameux pont du nord de la balade, que je confondais à la fois avec le pont d'Avignon et la passerelle du port jetée juste devant notre maison. C'est au clocher de Saint-Étienne, notre paroisse, que je la suspendais par l'accroc de son jupon. Mais, chose étrange, c'est sur les tours de Saint-Ouen, tout hérissées de figures grimaçantes, guives, tarasques et grenouilles ailées, que je plaçais la funeste entretien des gargouilles. Par la nuit fraîche et pluvieuse, La gargouille silencieuse prend soudain parole et lui dit: « Oh, oh, ce colloque lapidaire de la gargouille enchantée sous le bain de vif argent de la lune, de quelle délicieuse épouvante il me faisait frissonner! Je voyais la bête de granit darder hors de ses orbites ses aveugles prunelles sculptées. Elle avait un peu redressé son long col écailleux comme un gorgerin. Des plis de pierre immuablement durcis semblaient frémir sous son ventre et des lueurs de lune coulaient comme une bave entre ses mâchoires de lézard. Ce monstre héraldique, je l'avais remarqué et noté dans ma mémoire d'enfant lors de mon ascension sur les tours de Saint-Ouen à un déjà lointain voyage à Rouen, et par une bizarre association de souvenirs, ce sont les toits, les clochers et tout le panorama de la vieille ville normande que j'évoquais sous les yeux éperdus de la Marjolaine, demeurée accrochée au clocher de Saint-Évremond. Et sous le vent rageur d'automne, la belle s'épeure et frissonne au-dessus du vide entr'ouvert. Elle compte dans la nuit brune les toits bleuissants sous la lune et les seins du parvis désert. Une cuisse de femme serrée au-dessus du genou d'une jarretière bleue obsédait aussi mon souvenir. Je partageais encore la chambre de ma bonne, et il m'était arrivé souvent de la guetter, se déshabiller, alors que la brave fille se gênait un peu moins, me croyant endormie. Ce coin de chair entrevue me hantait et me faisait rougir, et c'est la robuste nudité d'Héloïse que je prêtais à la Marjolaine, suspendue frissonnante au-dessus des toits assiégés par l'hiver. Des psaumes et des musiques s'élevant de la nuit autour de la fille mourante, c'était pour moi l'Adeste Fidelis que j'allais entendre à la messe prochaine. Les vitraux de l'église m'avaient familiarisé avec les patriarches à longue barbe fleurie et les saintes en longues robes ramagées du cortège libérateur. Les enfants de chœur personnifiaient pour moi la juvénile théorie des anges, et au sortir de la messe de minuit, encore tout grisé de cantiques et d'encens, il m'arrivait de m'arrêter à quelques pas du porche et de regarder en l'air si l'ascension des évêques et des vierges de la légende déroulait ses spirales autour du clocher de Saint-Étienne. Mais la neige et le clair de lune hantaient seuls la vieille tour romaine, où ne vieillait aucune gargouille, et j'avais rêvé, éveillé, bercé au ronronnement du rouet de ce vieux conte allemand, devenu dans ma cervelle un conte pieux de Noël.